I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le mardi 11 mai, à Chambéry, Nordal Lelandais a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'un jeune homme de 23 ans, Arthur Noyer, en avril 2017. Il sera jugé plus tard, a priori l'année prochaine, pour la mort de Maëlys, 8 ans, enlevée et tuée la même année, à la fin de l'été. Code Source a choisi de prendre le temps de raconter ce procès en y consacrant deux épisodes, le premier aujourd'hui avec Pascal Aigret du service police-justice du Parisien.
Premier procès aux assises pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, Nordal Lelandais l'a reconnu, comme il a avoué avoir tué la petite Maëlys quelques semaines plus tard, et on continue à se demander si la liste s'arrête là. Nous serons à Chambéry dans un instant.
Pascal Aigret, à quoi ressemble le palais de justice de Chambéry ?
Le palais de justice de Chambéry, c'est un énorme bâtiment qui est sur une grande place, qui a des murs rouges, moi je dirais framboises, mais il paraît qu'on dit rouge sarde. Et c'est un monument historique parce que c'est l'endroit où a été prononcée en 1860 l'annexion de la Savoie à la France.
Il y a beaucoup de journalistes au premier jour de ce procès, le lundi 3 mai.
Il y a énormément de journalistes avec des caméramans, des photographes qui essayent d'attraper une image fugace de l'accusé au moment de son transfert, de son arrivée dans le fourgon. Des dessinateurs aussi, puisque comme aucune image n'est prise dans la salle d'audience, les dessinateurs d'audience ont une grande importance.
À l'extérieur, il y a la queue des étudiants en droit ou de simples curieux. Dans le palais de justice, des salles de retransmission vidéo ont été prévues pour accueillir tout le monde. Et dans la salle d'audience, il y a déjà les parents de la victime, Cécile et Didier Noyer, avec le frère d'Arthur, Quentin. Et ils ont amené une grande photo encadrée de leur fils disparu.
C'est la première chose qui frappe à l'ouverture de l'audience. C'est cette photo qui, en fait, fait surgir le visage du caporal Noyer et de ce jeune homme dans la cour d'assises. C'est une photo que tout le monde connaît parce que c'est la photo qui les avait utilisées pour essayer de trouver trace de leur fils. On ne savait pas encore que Nordal Lelandais était éventuellement mêlé à sa disparition. Et c'est une photo où le jeune homme sourit à une chemise à carreaux et présente un visage plein de vie.
Qui était Arthur Noyer ?
Il avait 23 ans au moment de sa mort. Il s'était engagé dans l'armée en 2014. Il avait choisi le bataillon des chasseurs alpins, donc il s'est retrouvé à Chambéry. C'était aussi un jeune homme qui adorait le skate, qui avait plein de copains. Et il était aussi très proche de son frère Quentin, avec lequel il avait peu d'écart.
Décrivez-nous le moment où Nordal Lelandais arrive dans la salle d'audience.
Quand Nordal Lelandais arrive dans la salle d'audience, tous les regards sont braqués sur lui avec évidemment beaucoup de curiosité. On voit apparaître un homme grand, 1m80 à peu près, qui a une barbe de 3 jours, poivre et sel, les cheveux courts, grisonnants, mais qui paraît plutôt jeune, d'allure athlétique. Et on sent qu'il s'est habillé un peu avec soin. Il a une chemise bleu pâle sur un pantalon beige.
Pascal Aigret, qu'est-ce que vous vous dites, vous, en le voyant et en sachant qu'il est le meurtrier présumé de ce jeune homme, Arthur Noyer, et d'une fillette, Maëlys ?
De façon très spontanée, je me dis qu'il n'a pas l'allure d'un tueur en série. Il n'a pas le visage cassé et inquiétant d'un Francis Holm. Il ressemble à un homme qui approche la quarantaine. Et il ressemble aussi à quelqu'un qui a quand même un peu passé de temps en prison. On sent que la prison marque toujours un petit peu. Il n'est plus le Nordal des photos, ce jeune homme un peu costaud, en t-shirt moulant, posant de manière très fière avec ses chiens.
Que dit le président de la cour d'assises, François-Xavier Manteau, au tout début du procès ?
Il s'adresse à l'accusé pour lui dire qu'il sera jugé comme tous les accusés qui comparaissent devant cette cour d'assises. Il ne sera pas jugé comme un tueur en série présumé, il sera jugé comme un accusé comme les autres. Et l'idée, c'est que la salle d'assises soit imperméable à cette agitation de l'opinion ou médiatique.
Le président de la cour donne la parole à Nordal Le Landais ?
En général, c'est comme ça que ça se passe. Une fois le résumé de l'acte d'accusation fait, on donne la parole à l'accusé pour connaître sa position. Et là, d'emblée, Nordal Le Landais dit « Oui, j'ai tué Arthur Noyer, mais je n'ai jamais voulu lui donner la mort ». Ce sont ses mots.
L'avocat de Nordal Le Landais, Alain Jakubowicz, cherche dès le départ à déconstruire l'image du tueur en série que beaucoup de Français ont de son client.
À l'occasion d'un incident de procédure qui permet à Alain Jakubowicz, donc l'avocat principal de Nordal Le Landais, de dire que son client n'est pas un tueur en série, que ce fantasme du tueur en série ne repose sur rien. S'il a tué, il a tué deux fois et non pas... Alors lui donne une définition du tueur en série comme étant quelqu'un qui aurait commis plus de 3 assassinats.
Il parle de la cellule Ariane de la gendarmerie qui a travaillé sur des dizaines de cas non élucidés.
Il en parle d'emblée en disant justement la cellule Ariane cherche depuis 3 ans en vain. Sous-entendu, preuve que Nordal Le Landais n'a rien à voir avec les 40 dossiers exhumés par la gendarmerie.
Ensuite, le début du procès est consacré à la personnalité de l'accusé, c'est toujours le cas. Quel est le but ?
On doit examiner la personnalité de l'accusé et ensuite on doit examiner les faits dont il est accusé. Examiner la personnalité d'un accusé, ça permet d'essayer de comprendre ce qui, dans son parcours, dans son enfance, dans son adolescence, ensuite dans sa vie d'adulte, pourrait permettre d'éclairer les raisons du passage à l'acte.
Il y a ce qu'on appelle un enquêteur ou une enquêtrice de personnalité, en l'occurrence c'est une enquêtrice. Quel est son travail ?
Son rôle n'est pas judiciaire, ce n'est pas de faire de l'investigation ou de la vérification, c'est d'établir au plus près de la réalité un parcours biographique, un parcours de vie.
Elle est à la barre le lundi après-midi. Qu'est-ce qu'elle raconte sur Nordal Le Landais ?
Ce qui est frappant dans la déposition de cette enquêtrice de personnalité, c'est la normalité de l'enfance, de l'adolescence de Nordal Le Landais. Puisqu'on est toujours sur cette image il faut rechercher une fracture dans l'enfance ou dans la vie de quelqu'un qui a tué. En plus, il a cette image donnée par l'affaire Maëlys de prédateur sexuel. Donc souvent, on se dit, peut-être qu'il y a eu une agression sexuelle dans son enfance ou dans sa jeune adolescence. Il y a eu une suspicion, mais pas étayée. Et en fait, on a vraiment l'impression, elle le formule comme ça, même si elle dit qu'elle n'aime pas le mot, d'une enfance normale, d'une adolescence normale.
Et normal, en l'occurrence, ça veut dire quoi pour lui ?
En l'occurrence, pour lui, ça veut dire il est né dans les Yvelines. La famille est venue s'installer en Savoie. Il avait 7 ans parce que le père était commercial en produits pharmaceutiques et qu'il a changé de travail. Sa maman travaillait pour des centres de radiologie. Et il a une demi-sœur plus âgée, avec laquelle il s'entend d'ailleurs très bien. Un petit frère plus jeune qui a un problème de santé. C'est un petit garçon que sa mère porte au nu en le décrivant très calme. Il n'y a aucun problème à l'école. Il est très vite passionné par le sport et par les animaux. Il s'inscrit au collège en sport-études. Il n'y a pas de problème de discipline particulier. Il n'y a pas de problème non plus de délinquance à l'adolescence. Donc ça semble être un parcours ordinaire, lambda.
Au niveau professionnel, il se cherche ?
Au début, non, il ne se cherche pas. Il est passionné par les chiens. Il a un oncle, en fait, qui a créé la cellule d'achat des chiens de l'armée de terre. Et son but, c'est de s'engager pour devenir maître chien. Il va devenir maître chien pendant 4 ans. Il intègre l'armée de terre, mais là, c'est peut-être les premiers signes d'accroc dans son parcours que rapporte aussi l'enquêtrice de personnalité. C'est qu'elle a eu accès à ses notations de dossier militaire et on voit une dégradation de plus en plus jusqu'à un incident avec un de ses supérieurs où il va recevoir une fléchette de sarbacane dans l'œil et il va être réformé de l'armée au bout de 4 ans alors qu'il s'était engagé pour 5 ans.
Il a déjà eu des problèmes avec la justice ?
Il a eu des problèmes avec la justice à l'âge adulte. Il y a 2 mentions à son casier judiciaire. Première mention, c'est pour l'incendie d'un cabanon de bord de lac avec 2 copains. Donc là, il va être condamné. Il y aura pose d'un bracelet électronique. Et la deuxième mention à son casier, c'est pour une altercation sur parking d'un supermarché avec une automobiliste. Et là, il s'emporte et il sort un faux brassard police.
À ce moment-là, il est question pour la première fois de la sexualité de Nordal Le Landais. Pourquoi c'est un sujet important dans le cadre de ce procès ?
La question de la sexualité de Nordal Le Landais, c'est une grande question de l'accusation puisque ça pose la question du mobile. Pourquoi a-t-il tué ? Est-ce qu'il n'a pas été pris d'une pulsion sexuelle irrépressible qui fait qu'il embarque ce jeune homme dans sa voiture et après on ne sait plus ce qui se passe ? On a aussi en tête des éléments du deuxième crime de la petite Maëlys où cette question sexuelle se pose de façon beaucoup plus aiguë.
Et il est mis en examen pour des agressions sexuelles sur 3 de ses petites cousines.
Oui, ces faits d'agression sexuelle ne vont apparaître que plus tard, au moment de l'instruction Maëlys, parce qu'on découvre qu'il a filmé ses attouchements sur de très petites filles de 5 et 6 ans et sur une autre cousine de 14 ans.
L'un des avocats de la défense de Nordal Le Landais parle d'un basculement de son client en 2017.
Pour Nordal Le Landais, fin 2016-2017, il y a des ruptures sentimentales importantes. Il y a une de ses compagnes qui tombe enceinte et à qui, c'est pas très clair, mais il va peut-être demander d'avorter ou elle veut avorter. Lui qui a 34 ans, aime faire la fête, se met à boire et à consommer de la cocaïne de plus en plus souvent. Lui, il le dira, j'étais un vagabond, je voyais mes amis du même âge construire leur vie, avoir un travail stable, des enfants, une maison. Et moi, je n'avançais pas.
Pourquoi ces avocats mettent en avant cette idée de basculement en 2017 ?
C'est vraiment un axe de la défense. C'est pour dire, vous voyez, s'il bascule en 2017, c'est qu'il n'a rien commis d'autre, aucun autre crime avant. Donc c'est pour continuer à torpiller l'idée d'un tueur en série. Mais c'est aussi pour essayer de comprendre pourquoi cet homme, avec des échecs répétés, se met un jour à tuer.
Le lendemain, le mardi 4 mai, la vie sexuelle de Nordal Le Landais est au cœur de l'audience avec à la barre les témoignages d'anciennes compagnes et d'un partenaire sexuel qu'il voyait régulièrement. La vie sexuelle de Nordal Le Landais est racontée en détail. On apprend d'abord qu'il avait beaucoup de partenaires.
Oui, Nordal Le Landais a une vie sentimentale et sexuelle très fournie, avec d'un côté des compagnes dont il affirme qu'il est très amoureux, de l'autre, des rencontres via des sites de rencontres, mais qui peuvent durer un certain temps. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui voient de temps en temps et puis après, il en change. Il superpose les relations, donc évidemment, il est de ce fait infidèle.
Pendant ces relations, il a été violent avec certaines de ses compagnes ?
Avec ses compagnes, non. Au cours de la relation, il n'y a pas de violence. Elle parle même de rapports toujours consentis, que même s'il demandait certaines choses et qu'elle refusait, il n'y avait pas de souci. La violence, elle surgit uniquement, d'après ses témoignages, au moment de rupture.
Et il y a donc aussi cet homme, ce partenaire sexuel de Nordal Le Landais, Richard.
Richard, c'est l'expérience homosexuelle de Nordal Le Landais qui commence en 2016 et qui se poursuit jusqu'au jour des faits. Ils vont se rencontrer 6 ou 7 fois, échanger 800 SMS. Mais ce qui intéresse la cour d'assises, c'est leur première rencontre. Pendant cette première rencontre, ils ont échangé sur le fantasme de Richard qui était de rencontrer un militaire et d'être enlevé et placé dans un coffre de voiture. Donc, ils se donnent rendez-vous à une gare de péage, à la gare de péage. Nordal Le Landais enferme Richard dans le coffre de sa voiture, l'emmène jusque, je crois, sur les bords d'un lac, et où là, il va le sortir du coffre, donc comme s'il l'avait enlevé, en fait, qui était le fantasme de son partenaire.
Et comme pour les compagnes de Nordal Le Landais, le président du tribunal va poser des questions très précises à Richard.
Il va lui demander si c'était bien son fantasme, puisque ça, c'était important à vérifier. Il va lui demander quel était le comportement de Nordal Hollandais, dominant, pas dominant. Et il va surtout lui demander des détails très crus sur ce qui s'est passé, pénétration, pas pénétration, etc.
Toujours pendant cette seconde journée d'audience, à un moment, l'avocat de la partie civile, de la famille d'Arthur Noyer donc, essaie de pousser Nordal Hollandais à dire la vérité.
C'est un moment d'audience un peu singulier où la mère de Nordal Hollandais, Christiane Hollandais, est à la barre. Elle exprime son désarroi et l'avocat de la partie civile de la famille Noyer, maître Bernard Boulou, va essayer de pousser cette mère à demander à Nordal Hollandais de dire la vérité. Elle est très désemparée et elle s'exécute. Elle se tourne vers le box et elle dit « Nordal, dis-moi la vérité ». Il lui dit « Mais je te l'ai déjà dite, j'ai dit la vérité ».
À la fin de cette journée, le président du tribunal demande à Nordal Hollandais de raconter justement précisément les circonstances de la mort d'Arthur Noyer dans la nuit du 11 au 12 avril 2017.
Nordal Hollandais explique qu'il est en voiture, qu'il s'apprête à quitter Chambéry quand à un rond-point, un homme se met quasiment sous les roues de sa voiture, il fait du stop et il s'arrête. Donc il s'agit d'Arthur Noyer, bien sûr, qui ouvre la portière de sa voiture et qui lui demande, d'après lui, de l'emmener à Saint-Baldolphe, une commune sur les hauteurs de Chambéry. D'après lui, ce jeune homme ne demande pas à rentrer à la caserne, mais veut aller retrouver à Saint-Baldolphe des gens pour l'aider à se venger du vol de son téléphone portable. Il est un peu confus, il a un peu bu, mais il se dit « ça ne me fait pas un grand détour, je l'emmène à Saint-Baldolphe ». Et là, il explique qu'au moment où il le dépose devant le centre de loisirs, il va y avoir une bagarre. Parce que Arthur Noyer aurait oublié son téléphone portable et sa veste sur le siège passager. Nordal Hollandais serait sorti pour lui tendre son téléphone portable et tout d'un coup Arthur Noyer lui aurait dit « Ah mais tu es avec eux, c'est toi qui as participé au vol de mon téléphone » et lui aurait asséné un premier coup de poing, un deuxième coup de poing et c'est en répliquant à ces coups de poing que Nordal Hollandais aurait asséné des coups de poing mortels.
Toujours selon sa version.
Toujours selon sa version.
Et donc, d'après son récit, qu'est-ce qu'il a fait ensuite, Nordal Hollandais ?
Nordal Hollandais explique que donc il voit tomber Arthur Noyer, raide, qui comprend pas tout de suite qu'il est mort. Il va essayer de il lui place les mains au niveau de la carotide pour voir si il est vivant ou mort. Que il essaie de lui faire un massage cardiaque, qu'il revient vers la voiture, qu'il repart et qu'à un moment donné, il va le mettre dans son coffre. Il va errer pendant des heures pour trouver un endroit qu'il veut discret et caché pour se débarrasser du corps.
Comment est-ce qu'il est quand il raconte ça ? Comment il s'exprime ?
Il parle d'une voix assez calme, il s'interrompt même pour dire à se tourner vers la photo d'Arthur Noyer et vers la famille de sa victime pour dire « je suis désolée, ça s'est passé comme ça, je ne l'ai pas voulu ». Puis hop, il reprend le fil de son récit pour expliquer que après, comme il ne trouvait pas d'endroit discret à Saint-Badolphe, il est reparti vers l'endroit où on trouvera les ossements d'Arthur Noyer, le col du Marocaz, un endroit davantage en montagne.
Le jour suivant, le mercredi, plusieurs témoins viennent raconter les dernières heures de vie d'Arthur Noyer. Et ce qu'ils décrivent contredit en grande partie la version de Nordal Hollandais.
Les témoins disent qu'il voulait rentrer à la caserne. Les témoins décrivent un jeune garçon pas du tout agressif quand il a bu, n'étant jamais dans un esprit de vengeance, contrairement à ce que dit Hollandais, et qui en plus ne connaissait personne dans la commune où Nordal Hollandais dit qu'il voulait aller.
Donc il n'avait aucune raison, a priori, d'aller à Saint-Badolphe. Et en plus, il avait deux téléphones portables.
Il n'avait aucune raison d'aller à Saint-Badolphe. Et la dernière témoin qui a emporté un peu la conviction à ce moment-là, c'est celle qui l'aide au moment du vol de son téléphone portable et qui décrit un jeune homme qui titubait un peu, qui avait du mal à parler. Mais quand les policiers sont arrivés, il ne voulait pas porter plainte. Elle s'est rendue compte qu'en fait, il avait deux téléphones. Donc en plus, l'idée de vouloir récupérer son téléphone et chercher des amis n'importe où pour le faire ne tient pas.
Le même jour, Pascal Aigret, plusieurs amis ou anciens amis de Nordal Hollandais sont à la barre et ils décrivent un Nordal Hollandais sympathique.
Oui, c'est moment d'audience vraiment intéressant et très fort, parce qu'on va voir trois des anciens amis de Nordal Le Landais, de ses plus proches amis, venir raconter une autre image de Nordal Le Landais. C'est Tonton Nono, c'est Nono le rigolo, c'est le bon ami qui fait rire tout le monde, dont on sait qu'il n'a pas vraiment de travail et que sur le plan amoureux c'est compliqué, mais qui est toujours prêt à venir donner un coup de main, serviable, sympa.
Parmi ces témoins, il y en a un qui a passé une partie de la soirée du 11 avril 2017, la nuit où Arthur Noyer a été tué, avec Nordal Le Landais.
Oui, cet ami qui se prénomme Nazim. Et ce soir-là, comme souvent, Nordal Le Landais s'invite à dîner chez lui. Il disait, Nordal, c'était l'ami qui passait à l'improviste. Je disais à ma femme, rajoute une assiette. Et c'est ce qui s'est passé ce soir-là. Il dit lui-même qu'il s'en souvient pas bien, mais en général, il buvait une bouteille de vin, il discutait, il rigolait. Souvent, Nordal Le Landais lui demandait un petit verre de rhum, parce qu'il aimait bien ça. Et ce soir-là, il n'a rien remarqué de particulier.
Nazim et Nordal Le Landais, ils étaient proches ?
On a vraiment l'impression qu'à la barre s'exprime le meilleur ami. On sent la force de l'amitié que lui portait cet homme. Il explique que bon, ils se voyaient très souvent. Nordal Le Landais passait boire un café à son entreprise. Il s'invitait donc à dîner chez lui. Qu'il était au baptême de sa fille, qu'il connaissait son épouse, sa maman. Il fait partie de ceux qui n'ont jamais lâché Nordal Le Landais jusqu'à ses aveux sur la mort de la petite Maëlys.
Et ça lui a coûté cher, hein, d'ailleurs, de rester fidèle à son ami.
Il explique aussi à la barre que parce qu'il a soutenu jusqu'au bout, jusqu'aux aveux sur la mort de Maëlys, Nordal Le Landais, il a été aussi lâché par tout le monde. Il parle des dommages collatéraux. Un acte criminel, ça touche la vie de la victime et de ses proches, mais ça touche aussi tout l'entourage de l'accusé.
Et Nazim va s'adresser à Nordal Le Landais.
Nazim se tourne vers le box, regarde Nordal Le Landais, et il y a ce face-à-face entre ses deux anciens amis. Il l'implore de dire la vérité. Il lui dit « Soulage-toi de la vérité. Vis ta vie plus léger, le mal est fait. » Il lui explique aussi qu'il n'a pas de haine, que de la peine. C'est vraiment un moment d'audience qui dure un certain temps, hein, parce qu'il parle beaucoup, il parle très bien, où on voit les avocats de la défense avoir les larmes aux yeux, où tout le monde est un peu sidéré et ému. Nordal Le Landais, dans le box, il est vraiment figé. On sent qu'il est très ému, et c'est à ce moment-là qu'on se dit qu'il va peut-être donner une autre version des faits. Il est invité à réagir et il se tourne vers son ami Nazim. Il lui dit « Toi, tu as toujours été courageux. Moi, je suis là, je n'ai pas ton courage. Toi, mon grand frère. » Et le président va lui dire « Mais faites ce pas vers auquel vous invite votre ami. Essayez. Est-ce qu'il y a une autre vérité, peut-être ?» Et là, il bafouille un peu. Il dit « La vérité, j'ai essayé de l'exprimer. À chaque fois que je dis quelque chose, on me dit « Mais non, c'est pas vrai, c'est pas ça. » On a l'impression qu'il peut peut-être avancer vers une autre vérité, une autre version des faits. Mais ça s'arrête là. Il dit juste ça à son ami Nazim. Merci d'avoir été mon ami.
Dans le prochain épisode de Code Source, nous verrons que plusieurs amis de Nordal Le Landais l'ont vu le lendemain du meurtre d'Arthur Noyer et qu'il n'a rien laissé transparaître. Il était comme d'habitude. Merci Pascal Aigret, on vous retrouve dans le prochain épisode, donc deuxième et dernier épisode consacré au procès Le Landais. Vous serez avec Louise Colcombé qui a couvert la fin du procès à Chambéry. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Marion Botorel et Salomé Robles. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Vous pouvez nous écrire pour nous faire des retours. codesource@leparisien.fr.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.